Bonjour à tous, j'en ai l'admiral au micro pour, dans le cadre de mon émission Paroles et Pensées, je veux aujourd'hui consacrer l'émission à un hommage à Habermas, un troisième hommage à Habermas qui nous a quittés le 14 mars 2026 alors qu'il avait 96 ans. Et j'y tiens particulièrement parce que j'ai beaucoup travaillé sur Habermas que j'ai introduit en France et dont l'importance m'est évidemment apparue avant d'autres. Avant de toucher au problème, je rappelle quand même que cette émission, Hommage à Habermas, troisième approche, prend place dans une série qui est la série Esquisse philosophique de mon émission, puisque je divise mon émission Paroles et Pensées en différentes séries comme Esquisse philosophique, quelques pages de littérature, les langues du monde, enfin différentes choses, une bonne dizaine de séries. Là, c'est la série Approche Esquisse philosophique. Esquisse philosophique parce que j'ai longtemps dirigé les émissions de philosophie de l'Université de Paris-Nanterre et là, évidemment, on avait un public d'étudiants qui prenaient des notes. Alors que pour les émissions de Radio Courtoisie, nous, on s'adresse au grand public cultivé et qui n'est pas forcément en train de prendre des notes pour un cours et un examen à venir. Et d'où la nécessité de ne pas s'interdire des excursus et un peu de redondance, c'est-à-dire des répétitions. Lors de mes précédentes émissions, j'ai fait plusieurs excursus, notamment à propos du protestantisme, qui est une chose très importante dans notre approche à Habermas, puisque Habermas est très marqué par la tradition protestante allemande. Et alors, je vais faire un petit point là-dessus. Une fois précédente, j'ai indiqué qu'il y a trois items, trois points du révisionnisme théologique de Luther. Sola fide, c'est-à-dire seulement la foi, mais pas la raison. Et, alors que dans la tradition catholique, c'est et la foi et la raison. Sola scriptura, seulement l'écriture, mais pas la tradition. Alors qu'encore une fois, dans la tradition catholique, la tradition est la continuation de l'héritage du Christ. C'est-à-dire la tradition est donc un complément qui vient épauler l'écriture. Et puis, sola gratia, seulement la grâce, et non pas les œuvres et la liberté. Alors on voit que c'est très différent de la tradition catholique que ce triple révisionnisme et qui aboutit à une mutilation, je dirais, de l'héritage catholique. En même temps, donc là, si j'insiste là-dessus, c'est que la raison va être un point très important et de plus en plus important dans la pensée de Habermas. Alors que chez Luther, par exemple, la raison, Luther a cette formule « diese Hure », la raison c'est « putain ». Bon, il est vrai que Pascal n'était pas très loin quand il disait « plaisante raison qu'un vent manie et a tout sens ». Alors, bon, je ne veux pas trop m'étendre sur cette dimension, mais si j'ai fait référence à cela, c'est que la philosophie allemande, l'université allemande, s'inscrit dans une tradition théologique, puisque la coupure entre le protestantisme luthérien et la tradition catholique aboutit à détacher la théologie de l'Église. Et alors, qui va prendre en charge la réflexion théologique? Ça va être l'université. On comprend d'emblée donc que l'université allemande se trouve investie d'une éminente dignité, puisqu'elle est le lieu de la théologie, et donc de se voir le plus important, puisqu'il était une époque où la religion était dominante en société et aussi sur plan intellectuel. D'où le temps que je prends pour faire cet excursus. Et alors, d'autre part, je m'en tiendrai à trois émissions sur Habermas, parce que, à la différence de Philippe Nemo, comme Philippe Nemo, je m'invite à ma propre émission. Mais lui, par exemple, avait fait 7 émissions sur Hayek ou d'autres, autant sur la philosophie de l'impôt, ce qui était passionnant. Mais j'aurais crainte de lasser un peu les auditeurs. Ce qui veut dire que je ne m'interdis pas de revenir plus tard sur Habermas, sur des points précis, que je pourrais expliciter tranquillement, parce que la philosophie suppose le temps de la réflexion et d'un discours qui soit redondant, c'est-à-dire et accessible, qui n'est pas ésotérique, mais exotérique. Peut-être une dernière remarque, dernier excursus, c'est que Habermas est philosophe et sociologue, philosophe-sociologue, je dirais un peu comme Maffezoli, comme Michel Maffezoli, qui lui est un sociologue-philosophe. Et ce qu'ils ont en commun, c'est donc la grande sociologie. J'y reviendrai à propos de quand on viendra à examiner la problématique des sciences humaines. Justement, la question des sciences humaines, c'est-à-dire en fait de la réflexion sur la société et la place que nous y occupons, c'est le lieu d'un débat, d'une polémique entre Habermas et Karl Popper, ou plutôt des critiques que Jürgen Habermas adressait à Karl Popper. Et quand il lui reprochait son positivisme, positivisme, on peut le mettre entre guillemets, parce que Popper, les Popperiens, récusent le fait que la philosophie de Popper soit un positivisme, et le terme qu'adoptait Popper, c'est rationalisme critique. Mais l'essentiel de la critique de Habermas, c'est de dire que il y a un caractère décisionnel, c'est-à-dire que les réflexions de Popper sur le plan de la théorie des sciences, qui est l'essentiel, mais aussi son conséquence politique, un ouvrage qui a été très important, c'est La société ouverte et ses ennemis, et tout ça part d'un postulat, d'une position décisionnelle, c'est-à-dire des présupposés métathéoriques qui ne sont pas argumentés, qui ne sont pas développés. C'est ce que critique Habermas, qui va essayer, on va essayer de le voir, de montrer qu'il y a une logique immanente de sa théorie, alors que, encore une fois, le positivisme, entre guillemets, de Popper procède d'une sorte de postulat non démontré, un postulat donc purement décisionnel. Ou plutôt par voie de conséquence, la théorie critique, qui s'efforce donc de ne pas se cantonner à un domaine précis, comme l'a fait Popper, qui s'occupe des sciences exactes. Son ouvrage fondamental en allemand, c'était Logik der Forschung, logique de la recherche. Et quand il a été en Angleterre, quand il est devenu Sir Karl, et la version anglaise de cette Logik der Forschung vient de venir Logic of Scientific Discovery, la logique de la découverte scientifique. La position de Habermas et de l'école de Francfort va être assez différente, puisqu'il y aura une critique de ce que j'ai appelé la balkanisation institutionnelle croissante des spécialités universitaires, c'est-à-dire l'éclatement en disciplines séparées, que critiquait aussi bien Horkheimer dans Traditionnelle und Kritische Theorie, ou même à Heidegger, par exemple. Et donc l'idée est que cette séparation des spécialités, des domaines de recherche, appelle un décloisonnement. Et une certaine interdisciplinarité qui a un sens résolument critique et politique. Il s'agit de remettre en cause la division du travail intellectuel. Et on se souvient que Marx avait critiqué la division du travail, et là il y a le pendant, la division du travail social, il y a un pendant ici, la division du travail intellectuel. Et alors, balkanisation des spécialités, comme je l'ai dit, entraîne des points aveugles, c'est-à-dire que les mêmes phénomènes, les phénomènes humains, peuvent être étudiés par le sociologue, par le psychologue, par l'économiste, et dans tous les cas, on ne voit qu'une partie du phénomène. Et donc, il s'agit de, par le décloisonnement interdisciplinaire, de dépasser ces points aveugles et ces blocages idéologiques qui sont engendrés par une telle division du travail. Autrement dit, Habermas entreprend un vaste programme de réception critique de la recherche contemporaine qui intègre de très nombreuses approches, aussi bien la psychanalyse freudienne ou la psychologie cognitive de l'école de Piaget, l'épistémologie génétique de Piaget, la linguistique chomskienne, la théorie des speech acts, des actes de langage de Austin et Searle, la linguistique de l'énonciation, le fonctionnalisme sociologique et la sociologie de l'action dans l'esprit de Michael Parsons, la psychologie sociale d'un Mead, etc., etc., y compris ce qu'on appelle les recherches qu'on range sous le titre de ethnométhodologie. Et même Habermas ne s'interdit pas d'intégrer des éléments de paléontologie et d'anthropologie physique. Une des formules qu'il a pour justement penser, il reprend une formule où l'homme est un prématuré congénital. C'est-à-dire, comme l'homme sort, il n'est pas fini. En somme, le fonctionnement biologique, le biogénétique, laisse une ouverture, un manque pour l'introduction de la dimension culturelle, socioculturelle. Là, il y a un effort pour une anthropologie totale, globale. Et alors, cette ressemblance, ce côté boulimie interdisciplinaire de Habermas, quelque chose de fascinant, parce que à partir du moment où l'homme est une espèce, une société, une histoire, il a des histoires, c'est le même homme en principe qui à chaque fois va être étudié de façon particulière. Et il s'agit de reconstituer, de refondre ensemble ces approches particulières et donc de dépasser le clivage traditionnel entre science et philosophie, entre sciences et philosophie, qui donc est lui-même dépassé dans la perspective de Habermas. Donc cette réflexivité métathéorique de la théorie critique est un aspect de ce que j'appelais le matérialisme intégral de Jürgen Habermas. L'idée que, en somme, il va dépasser le côté décisionnel qu'il reprochait à Popper pour constituer une anthropologie interdisciplinaire qui va aboutir à faire que la recherche va finir par se fonder elle-même, d'où l'idée d'un matérialisme intégral de Habermas. Alors, c'est en même temps critiqué par certains. Ma formule du matérialisme intégral de Jürgen Habermas est critiquée par certains parce qu'on verra que, autant Habermas au départ a été relevé du néo-marxisme universitaire de l'école de Francfort, de la théorie critique de l'école de Francfort, autant on va voir que de plus en plus il va glisser vers une approche où l'essentiel va être la communication. Alors, en tout cas, ça a pour conséquence, ou plutôt pour présupposer, que la philosophie et la sociologie sont coextensives l'une à l'autre. Habermas était professeur de philosophie et sociologie, comme Adorno et Horkheimer. Et son premier livre, qui s'appelait Théorie et pratique, portait comme sous-titre Études de philosophie sociale, Social Philosophy. C'est-à-dire, c'était bien une manière d'expliquer que la sociologie ne va pas sans philosophie, et la philosophie sans sociologie. Et c'est donc très exactement l'esprit de la théorie critique. Si bien qu'en somme, on va avoir une anthropologie philosophique qui intègre sous son égide l'ensemble des sciences humaines, et même pas seulement des sciences humaines, paléontologie, l'anthropologie physique, pour constituer une sorte de savoir, très englobant, très ambitieux, qui est très fascinante parce que quand on lit Habermas, on voit que c'est nourri par des lectures, une connaissance des travaux de différentes disciplines qui contribuent non seulement à nous en instruire, mais aussi à donner une cohérence au discours qu'il nous tient. Quant à la sociologie, il faut bien distinguer, on peut distinguer deux sortes de sociologie. La grande sociologie, qui est une sociologie critique et qui débouche sur une théorie générale de la société, et donc sur ce que Habermas appelait, dans l'esprit de l'école de Francfort, une philosophie sociale, et puis une sociologie empirique qui étudie des phénomènes particuliers, circonscrits, pour pouvoir en faire une étude empirique. C'est un petit peu ce qu'avait fait Habermas au début, avec Friedeburg et deux autres auteurs, dans Student und Politik, les étudiants et la politique, où il s'agit d'étudier la façon dont les étudiants pensaient la politique, ou en l'occurrence, ne la pensaient pas encore. Et alors la sociologie empirique, la critique qu'adresse certains penseurs de l'école de Francfort, de la théorie critique, c'est que la sociologie empirique étudie l'ordre existant et d'une certaine façon, ça aboutit à valider l'ordre existant. Et un petit peu, j'ai par exemple des polémiques avec des collègues à Nanterre, mes amis et collègues linguistes, qui critiquaient la grammaire parce que la grammaire était normative. Alors, c'était linguistique et empirique, elle étudie la langue telle qu'elle fonctionne. Mais ça veut dire, l'épistémologie implicite de cette attitude consiste à dire qu'on s'en tient au réel tel qu'il est, et on s'interdit donc la remise en cause critique de ce réel et de ses pesanteurs idéologiques et de ses aveuglements ponctuels. Alors le projet sociologique de Habermas est philosophique et donc il débouche sur une réflexion globale sur les problèmes de la cité dans une perspective pratique. Alors pratique, c'est un point qu'il faut préciser, c'est que le terme de pratique en allemand, praktisch, a un sens plus large qu'en français où on a tendance à ne pas faire très bien la différence entre pratique et technique. On va dire, c'est un problème technique. Un problème technique, ça veut dire que la technologie pose le problème et le résout. Alors que quand on dit un problème technique, ça veut dire un problème spécialisé, un problème qui regarde des spécialistes. Autrement dit, il faut distinguer la technique et la pratique. Ça renvoie à une distinction qu'avait introduit déjà Aristote, où la technique s'inscrit en aval d'une théorie dont elle est l'application, et la pratique a son autonomie propre par rapport à la réalité dans laquelle elle s'en sert. Une réflexion globale sur les problèmes de la cité dans une perspective pratique, c'est-à-dire dans une perspective qui va s'efforcer de faire émerger de l'expérience sociale les éléments de la critique que reprendra à son compte le marxisme de Habermas. Autrement dit, la réflexion est en même temps un projet politique, non pas décisionnel, plaqué sur l'analyse, mais qui est censé émaner de l'analyse sociologique. En ce sens-là, le marxisme auquel se réfère le jeune Habermas est le contraire d'une orthodoxie. C'est un marxisme profondément révisé et qui est encore plus révisé que le néo-marxisme qu'il héritait de la première génération de l'école de Francfort. Le développement du capitalisme avancé exige un aggiornamento du marxisme et un certain nombre de révisions. Alors, par exemple, la distinction établie par Marx entre l'État et la société doit être remise en cause dans la mesure où la base économique et la superstructure politique, on retrouve là le fameux couple force productive et rapport de production, les forces productives correspondent à la base économique, au fondement technologique de la base économique, et les superstructures politiques. Superstructure politique est une des nombreuses superstructures qui correspondent au rapport de production, c'est-à-dire l'organisation de la société à un moment donné. Cette distinction entre l'État et la société a tendance à s'effacer au profit d'une sorte de complexe systémique qui va intégrer l'économie, la société, la politique, etc., etc. Et alors, qui débouche sur un État social, un État, l'État au sens avec un grand T et accent majuscule, la théorie, parce que la théorie des classes sociales est caduque. La théorie des classes sociales de Marx et Habermas dit qu'elle est caduque dans la mesure où, dit-il, sa formule peut être éventuellement interrogée. La lutte des classes est entrée en latence. En latence. Latence, c'est un terme qu'on retrouve en psychanalyse. Sexualité latente, ça veut dire que c'est une sexualité qui ne se manifeste pas, mais qui attend de se manifester chez, par exemple, chez le bébé, enfin, chez l'enfant. La sexualité ne se manifeste pas vraiment comme telle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du désir, le corps du bébé, de l'enfant est traversé par des désirs, mais pas par une sexualité. La sexualité, enfin, la théorie freudienne, c'est que l'enfant est un pervers polymorphe, c'est-à-dire que tout est sexuel. Les débats actuels qu'on a où les États et les instances de la santé internationale veulent à toute force qu'on enseigne la sexualité aux enfants de l'école primaire, ce qui est une façon de les brutaliser, justement, parce qu'à ce moment-là, ils ont une phase de latence de la sexualité. En tout cas, je dis ça parce qu'il s'agit d'interroger ce concept de latence. La lutte des classes est entrée en latence, ça veut dire qu'il n'y a pas de lutte des classes au moment où Habermas fait ses analyses, mais on peut se demander si, entre-temps, les modifications sociales, historiques de nos sociétés n'aboutissent pas à redonner à la lutte des classes des éléments de plausibilité. C'est un problème qui se pose et que la pensée de Habermas nous amène à nous poser nous-mêmes. Hein. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où la lutte des classes est entrée en latence, en fait, il n'y a plus de prolétariat révolutionnaire, le fameux prolétariat révolutionnaire dont se réclamait le marxisme et le mouvement communiste, voire socialiste. Le prolétariat étant à la fois le sujet qui fait l'histoire et le destinataire de la théorie critique. Et c'est ça qui est, en principe, s'efface avec le fait que la lutte des classes est entrée en latence. Avant de continuer ma phrase, je vais laisser la place au Bobineau, qui va vous expliquer combien Radio Courtoisie est importante et combien il faut la soutenir.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
J'étais en train de dire que si la lutte des classes est entrée en latence, alors le prolétariat révolutionnaire n'est plus le moteur, le sujet qui fait l'histoire, ni même le destinataire de la théorie critique. Et concurremment, alors, l'Union soviétique, l'organisation soviétique de la société a attiré l'attention sur le phénomène bureaucratique. En quelque sorte, l'Union soviétique, le communisme, fait apparaître une domination bureaucratique particulière et dans cette perspective-là, le marxisme doit faire place à une logique de l'interaction communicationnelle. Il s'agit de rétablir les citoyens, les membres de société, dans leurs droits à parler et à penser. Alors, et c'est pas seulement dans les sociétés soviétiques, totalitaires ou autoritaires, que ce problème se pose. Dans une société comme la France d'aujourd'hui, on a le droit de penser, mais il vaut mieux pas s'exprimer, parce que sur tout un ensemble de sujets, qu'ils soient du climat, qu'il s'agisse de l'homosexualité, du mariage, enfin bref, tout un ensemble de problèmes sont devenus maintenant des obligations, et les contester relève de la du contrôle pénal. Il s'agit de rétablir une logique de l'interaction communicationnelle où justement la différence de notre société n'est pas l'équivalent en quelque sorte d'un contrôle bureaucratique des masses. Et alors j'indiquais donc tout ça constitue tout ensemble de révision du marxisme, et je vais faire référence à un livre de Habermas, pas le plus récent, qui est Zur Reconstruktion des historischen Materialismus, que j'ai traduit sous le titre Après Marx. Et ça dit bien ce qu'il en est, c'est-à-dire que nous sommes, la pensée moderne se situe après Marx, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu Marx avant, mais elle ne serait pas ce qu'elle est si justement elle n'avait pas pris ses distances par rapport au marxisme en y opérant un certain nombre de révisions. Et donc, c'est un point très important que ce déplacement d'une théorie marxiste de la stratification sociale et de la lutte des classes et du clivage entre forces productives et rapports de production. On en vient donc à une logique de l'interaction communicationnelle et qui remet en cause la logique productiviste et la raison instrumentale à l'œuvre dans l'économie et sur laquelle le marxisme faisait fond pour en faire la critique. Habermas va insister sur l'exigence de discussion critique, das Prinzip Diskussion. Alors, simplement, donc c'était l'idée que on échangeait des arguments rationnels et pour arriver à un consensus et une action commune. Comme on sait, ce principe de discussion est difficile à mettre en œuvre. Et donc, l'exigence de discussion critique. Alors, à un moment, se fait le rapport entre la revendication politique de la bourgeoisie montante et son caractère subversif, et qu'il appelle radical démocratique. Et en somme, il faudrait prendre au sérieux, à la lettre, le programme libéral des Lumières. Et là, les Lumières, encore une fois, si on regarde de près, par exemple, Xavier Martin a fait des travaux historiques sur les Lumières. Et les Lumières, quand on étudie les textes, comme il l'a fait, Xavier Martin a publié plusieurs livres sur les Lumières, sur Voltaire, sur l'anthropologie des Lumières, on s'aperçoit que ce qu'on nous en raconte dans l'enseignement, par exemple, ou dans la tradition philosophique, n'est pas du tout la réalité du discours des auteurs des Lumières. Et Xavier Martin raconte que il était assez à droite, il était à l'université, je crois, à Toulouse, et il discutait avec des collègues qui lui disent à court d'arguments, « Mais écoute, lis Voltaire !» Alors, Xavier Martin dit, bah, « j'ai lu Voltaire, Xavier Martin est un grand lecteur, et il a fait un livre, Voltaire méconnu, où il montre que Voltaire dit exactement le contraire de ce qu'on lui prête. » et il fait un livre très important sur les Lumières, où il montre que les penseurs de la Lumière écartent de l'humanité les femmes, les paysans et les races supposées, sinon inférieures, du moins différentes. Autrement dit, le programme des Lumières n'est pas du tout démocratique. Dès qu'on regarde avec attention les textes. Mais ce qui nous en est transmis, plutôt l'image des Lumières, l'image trompeuse des Lumières, est au principe de la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire l'avènement de ce qui devrait être une démocratie. Et cela est censé être mis en évidence par l'opinion publique, par l'opinion publique. Par exemple, il y a un texte de Kant très intéressant sur qu'est-ce que l'Aufklärung, qu'est-ce que sont les Lumières, qu'est-ce que la raison critique. C'est, dit-il, le fait que chacun de nous peut écrire ce qu'il pense et que ce qu'il pense étant publié est discuté de façon rationnelle par ses lecteurs. Mais tout cela est très bien, mais premièrement, c'est pas du tout la réalité historique des Lumières, mais je dirais la fonction critique et de l'éclairage par l'opinion publique est tout à fait démentie par l'aliénation des médias de grand chemin auxquels on assiste, particulièrement en France, où on a l'impression que les Français sont décérébrés et n'entendre qu'un son de cloche distillé de façon dogmatique et agressive par les médias dominants, et qu'on pourrait appeler, les gens disent, mainstream, et Jean-Yves Le Gallou parle des médias de grand chemin comme les voleurs du même nom. Finalement, la société... la théorie de Habermas, c'est que, compte tenu de la carence du prolétariat, ce serait à l'humanité, un humanisme universel, qu'il reviendrait de faire l'histoire et de mettre en place la réalité d'une démocratie. En même temps, Habermas est conscient que la fiction bourgeoise de l'opinion publique est souvent dévoyée. Et elle a une fonction démonstrative et manipulatoire. Et dans ce cas-là, elle vise à assurer la loyauté plébiscitaire des masses dépolitisées et elle est pourvoyeuse de légitimation idéologique. C'est le cas des médias de communication de masse. Je dirais, c'est une des choses qui n'avait pas prévu le général de Gaulle qui commençait. On appelait au peuple pour décider les choses importantes, et notamment l'élection du président de la République, parce que, disait-il, on peut tromper un certain nombre de gens, mais pas tromper tout le peuple. Or, hélas, entre-temps, la puissance des médias, les forces qui sont derrière et qui les submergent d'argent, le pouvoir de l'argent et le pouvoir des médias fait que, si on peut tromper le peuple complètement, les élections récentes en France et hélas aussi surtout en Hongrie nous en administrent la preuve désolante. Tout cela, pourtant, Habermas insiste sur le fait qu'il y a là tout. C'est cette possibilité qui paraît fragile de discussion dans l'opinion publique, ça fait partie des faits allant contre Marx et qui rejoint le révisionnisme de Habermas et qui invoque notamment l'amélioration du niveau de vie qui abolit le paupérisme. Là encore, on a assisté pendant un certain temps à une réduction de la pauvreté dans nos sociétés. Et puis, il semblerait qu'au contraire, maintenant, cette amélioration du niveau de vie, abolissant le paupérisme, est inversée actuellement. Il y a une repaupérisation d'une grande partie des populations, de la population française, par exemple. Et donc, il reste à restaurer le dialogue démocratique est la seule voie, selon Habermas, qui permettra d'assurer la médiation entre, dit-il joliment, notre pouvoir technique et notre vouloir pratique. Là encore, la différence entre technique et pratique, c'est-à-dire que pouvoir technique, c'est qu'est-ce que nous permet la technique et l'état de l'économie d'un côté, et par ailleurs, qu'est-ce que nous décidons politiquement dans la pratique politique, pratique prenant ici le sens, pratique prenant un sens large ou qui intègre la morale et la politique. D'ailleurs, significativement, la critique de la raison pratique de Kant, critique de Praktischen Vernunft, je le dis en allemand parce que justement, en français, critique de la raison pratique, on aurait tendance à penser que c'est la raison à l'œuvre dans les manipulations, l'utilisation des dispositifs, le bricolage, etc. Alors qu'en fait, là, la raison pratique, c'est la morale. Et donc, la critique de la raison pratique de Kant, c'est la morale kantienne. J'insiste sur certains concepts parce que, on ne va pas traduire praktisch par autre chose que pratique, mais il faut bien savoir que ça n'a pas le même sens. Il faut investir le mot français pratique du sens qu'il a encore en allemand et qui remonte, j'indiquais, à l'opposition qu'établissait Aristote entre techné et praxis, entre la technique et la pratique. Je serai amené à revenir quand je ferai d'autres émissions sur Habermas, sur certains points de philosophie. En prenant le temps d'y aller regarder de près et d'en permettre une discussion, un approfondissement réflexif. Et alors toujours dans la critique de l'illusion démocratique de l'opinion publique dans nos sociétés, il y a à la fois la manipulation par les médias de grand chemin, que j'ai envie d'appeler, excusez-moi, les merdiens, il y a aussi derrière ça une puissance de l'irrationnel, de l'inculture et de l'irrationnel, et un certain ressentiment, un certain radicalisme déconstructeur. Il y a une sorte d'acharnement contre la nation, l'école, la religion, ça, la morale, et il y a un travail du négatif. Que Habermas ne prend pas tout à fait en compte. Peut-être est-ce moins évident en Allemagne qu'en France, mais j'ai longtemps vécu en Allemagne, maintenant j'y vais beaucoup moins. D'ailleurs, si j'ai le choix entre aller à Berlin et à Palerme, je vais à Palerme, qui est devenue ma deuxième ville, alors qu'autrement c'était Berlin, Hambourg et Heidelberg. Quoi qu'il en soit, Le projet habermasien, c'est l'idée d'une, ce que j'ai appelé une utopie communicationnelle. L'idée que, par la communication, et c'est un concept qui va devenir central, qui devient le concept central de la pensée du Habermas, deuxième époque, si je puis dire, du second Habermas. L'idée, c'est que le dialogue démocratique est la seule voie permettant la médiation politique entre le pouvoir technique et notre vouloir pratique. Et donc d'échapper à l'illusion technocratique ou décisionniste et qui est censée redonner la possibilité pour le peuple de prendre des décisions qui soient les siennes. On remarquera d'ailleurs qu'en France, la Constitution prévoit des référendums et que depuis très longtemps, le pouvoir devenu bureaucratique et manipulatoire, prend bien soin de ne pas faire de référendum, et quand par hasard il prend fantaisie aux personnalités politiques de prendre le risque de faire un référendum, comme ça a été le cas, le référendum sur l'Europe, la réponse était négative du peuple et les dirigeants ont dit bon, c'est pas grave, on va le faire passer par la voix des représentants. Autrement dit, là c'est un aveu très évident du fait que le peuple, l'opinion publique est dessaisie de la prise en charge de ses propres intérêts et de l'intérêt commun. Et alors, Habermas, la réponse à Habermas, c'est l'exigence, alors je dirais contrafactuelle en prenant un terme anglo-saxon, l'exigence contrafactuelle, c'est-à-dire qui n'est pas réalisé ou réalisable d'un idéal de communication politique. Alors communication, le terme de communication en allemand, on ne peut pas le traduire autrement que communication, mais en réalité c'est un concept beaucoup plus large. Quand je dis communication en français, on imagine le schéma où il y a un émetteur qui encode un message sur un canal et ce message est reçu à l'autre bout du canal par un récepteur qui décode l'information. Et donc une sorte de communication, ça va être ce schéma-là, avec éventuellement du bruit, c'est-à-dire des altérations du message qui implique qu'il y ait une certaine redondance. Qu'il y a une dimension de la répétition. Et le langage se situe entre deux exigences contradictoires, redondance et économie. Alors concrètement, par exemple, un langage mathématique, c'est l'économie totale, il n'y a pas de redondance. Mais avec l'inconvénient que si vous avez un raisonnement mathématique auquel il manque des parties, ça n'a plus aucun sens. Alors que quand nous parlons, nous allons, non pas nous répéter, mais la façon dont nous allons développer notre réflexion fait que on peut suivre même en perdant certains passages. Alors je veux faire une confidence, moi je suis ce qu'on appelle un narcoleptique. C'est-à-dire que quand je suis pendant un certain temps assis, il m'arrive de m'endormir. Et je suis amené, étant universitaire, à être souvent dans des colloques. Et je suis assis, j'écoute l'orateur, après ou avant ma propre intervention, j'écoute bien, et à ce moment, j'ai le syndrome du marchand de sable, donc je ferme les yeux, mais j'écoute toujours, pour pas qu'on voit que j'ai les yeux fermés, je me mets mes lunettes de soleil. Et ceux qui me connaissent, ils disent, Jean-René a mes lunettes de soleil, la nuit est à nous. Et alors, effectivement, j'écoute les yeux fermés, et puis, pendant quelques, je sais pas, 10-20 secondes, je perds conscience. Donc effectivement, j'ai eu un moment d'absence. Mais dans le discours tenu dans nos domaines, il y a suffisamment de redondance pour que si j'ai perdu une demi-minute ou deux demi-minutes de l'argumentation, j'ai quand même compris l'essentiel. Et quand on dit « y a-t-il des questions ?», je lève la main et alors certains disent « Mais enfin, Jean-René, t'as dormi pendant l'essentiel de la conférence. » Et alors, je pose une question, on me dit mais t'as posé la question la plus importante. T'arrives à dormir et à réfléchir en même temps ? Non, ce qu'il y a, c'est que j'avais les yeux fermés, j'ai dormi 30 ou 40 secondes. Je me suis assoupi. Ça, c'est les narcoleptiques. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et alors, justement, si je prenais cet exemple... c'est donc sur l'idée de la redondance. On peut écouter un discours organisé avec des blancs et on a compris quand même l'essentiel. Alors, l'idée d'un dialogue, l'utopie communicationnelle de Habermas, c'est que on va échanger des arguments, on va y revenir, avec suffisamment de redondance pour qu'on n'ait pas besoin d'être un spécialiste, de devoir suivre à la minute, à la seconde, le discours, mais s'insérer à l'intérieur de la discussion. D'ailleurs, c'est l'expérience de certains, dans une langue étrangère qu'on maîtrise bien, mais pas parfaitement, si il arrive qu'on ait du mal à suivre, si on n'est pas intégré dans la conversation. Parce qu'à ce moment-là, on peut réagir et développer participer à une orientation de la discussion d'ensemble. C'est le cas aussi des gens, c'est mon cas par exemple, dont l'audition n'est pas parfaite. Et alors, et notamment, il se trouve que ces derniers temps, j'étais souvent dans des échanges avec des Espagnols, et mon espagnol est très imparfait, le français de mes interlocuteurs était très imparfait aussi. Alors, quand ils parlaient entre eux, j'avais beaucoup de mal à suivre, mais à partir du moment où j'étais dans la discussion, alors ça allait parce que je comprenais, je répondais, et il y avait suffisamment de redondance que j'introduisais moi-même pour que je puisse comprendre. Et alors voilà, j'ai fait deux petits excursus personnels pour montrer que toutes ces réflexions ont une incidence dans des événements très, très simples de la vie, la narcolepsie, la distraction, la surdité partielle, etc. etc. Alors, je voudrais revenir sur un point très important, c'est que Habermas va nous proposer une épistémologie, enfin une théorie des sciences humaines, une épistémologie des sciences humaines, disons le mot, c'est une logique des sciences qui d'ailleurs ne se sépare pas de la théorie de la connaissance. Le terme allemand, c'est Erkenntnis und Wissenschaftstheorie. Et alors, cette réflexion sur les sciences humaines est importante dans la mesure où les sciences humaines sont censées parler de nous, de l'homme, et par conséquent, ce que les sciences humaines disent ou ne disent pas a une pertinence politique. Et par ailleurs, les discussions qui vont être mises en avant correspondent à une tradition philosophique allemande importante. Voilà. Excusez-moi, je tourne mes feuilles parce que voilà. En fait, au départ, il y a l'idée que le programme épistémologique de Habermas part de la dichotomie, le clivage, la distinction néo-kantienne opposant l'explication causaliste et la compréhension interprétative ou herméneutique. Alors qu'on aurait d'une part l'explication causaliste mise en œuvre par les sciences exactes, et puis par ailleurs la compréhension herméneutique mise en œuvre dans les sciences humaines. En allemand, la formule est Geisteswissenschaften. Si je traduis littéralement, ce serait science de l'esprit. Sauf que il ne s'agit pas de l'esprit. Enfin, cet esprit-là, c'est un peu l'esprit objectif de Hegel. Et donc, traduire par science de l'esprit, comme je l'ai indiqué dans ma préface, la technique et la science comme idéologie, c'est à mi-chemin entre un non-sens et un contresens. On ne comprend pas ce que ça veut dire, et si on comprend quelque chose, ce n'est pas ça. En réalité, il s'agit des sciences humaines, ou plus exactement, j'ai proposé une traduction, les sciences morales. Et en français, donc, il y a une académie des sciences morales et politiques. Et l'idée de sciences morales est ici intéressante, parce que quand nous parlons des sciences humaines, nous pensons sociologie, psychologie, ethnologie, alors que les sciences morales intègrent aussi l'étude de la littérature et de l'histoire. Autrement dit, la Wissenschaft, les sciences, les Geisteswissenschaft, les sciences humaines au sens large de la Wissenschaft, du concept de Wissenschaft en allemand, est beaucoup plus large. Alors c'est un point, je suis obligé de m'arrêter là et de limiter, de vous laisser peut-être un peu sur votre fin. Effectivement, il resterait encore beaucoup à dire, mais j'ai un peu peur de lasser l'auditoire en faisant 5 ou 6, 6 ou 7 émissions sur Habermas, comme l'avait fait Philippe Nemo en faisant 7 émissions sur Hayek, ce qui était passionnant, mais peut-être pour certains un peu fastidieux. Voilà, donc je serai amené sans doute à revenir sur Habermas, mais différemment. Et là, mon hommage à Habermas, troisième approche, s'arrête, tourne court, j'aurai matière à en faire au moins 2 autres, mais encore une fois, je m'interdis d'infliger aux auditeurs, trop d'émissions sur Habermas. Alors, je vous remercie de votre attention, je remercie Jocelyn pour son assistance technique, et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission qui, comme d'habitude, aura lieu le lundi de 10 à 11 dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre Paroles et Pensées, dirigée par Jean-René Lamiral, émission préenregistrée le 13 avril 2026 et diffusée pour la première fois lundi 6 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.